Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Van Houctil, la dette ou la vie?
Flight number 2, arriving from New York.
Je m'appelle Renaud et je fais partie du CDTM Belgique, comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et donc, on organise un stage de formation sur la dette publique du Nord principalement, mais aussi en lien avec les expériences du Sud, puisque comme on l'a vu ce matin, on a l'exemple de l'audit qui s'est mené en Équateur, la commission d'audit qui a été instituée par le gouvernement actuel de Rafael Correa et dans laquelle le CDTM a été associé pour auditer la dette publique de l'Équateur pour en révéler la part illégitime, la part qui n'a pas profité à la population équatorienne.
Bonjour, donc mon nom c'est Christine Van den Delbe, je suis aussi permanente au CDTM Belgique et là je m'apprête avec Sonia Mitralias à faire une intervention sur les impacts de la dette sur les femmes, sur l'auto-organisation des femmes dans les processus d'audit européens contre la dette.
Et là l'idée c'est de faire essaimer quand même de toute cette réflexion, c'est ça, en Europe et dans le monde, même si ça, il y a déjà des comités au niveau international, c'est ça?
Mais oui, ça s'inscrit dans un mouvement plus global, plus international, pour lancer des audits citoyens de la dette, puisque actuellement, il n'y a aucune volonté politique de la part des gouvernements de questionner déjà le paiement de la dette. Donc ça, c'est même pas dans la volonté des gouvernements. Donc nous, on prend le relais dans le but de créer une mobilisation populaire autour de la dette et faire en sorte que les dettes qui n'ont pas profité à la population soient annulées. Et tout ça s'inscrit aussi dans un combat plus global contre l'austérité, puisqu'aujourd'hui, la dette, c'est clairement l'alibi dont se servent les gouvernements pour imposer des politiques d'austérité qui touchent toujours les mêmes populations.
Moi, c'est Jawad Moustapel, secrétaire général adjoint d'Ataxea d'ETM Maroc. Donc, on travaille sur tout ce qui impacte la mondialisation libérale sur notre économie, principalement les questions de privatisation où le Maroc est vu comme un champion par la Banque mondiale et l'FMI parce qu'on a tout privatisé, l'eau, l'électricité. On travaille aussi sur les questions de l'immigration, enfin sur plusieurs défenses du service public. Et dernièrement, on est bien impliqué dans le mouvement de contestation au Maroc, qui est le mouvement 20 février, qui est la version marocaine du printemps arabe. Et donc on est plein dedans et on a même des camarades de chez nous qui sont détenus pour leur opinion. Donc, contrairement à ce qu'on peut raconter, le Maroc n'est pas une exception. Le régime marocain, il réprime et il y a des détenus politiques. Et les réformettes qui sont proposées par le roi, ce n'est qu'une opération de trompe d'œil pour contourner les aspirations légitimes du peuple marocain qui lui aussi aspire, comme les autres peuples, à une réelle démocratie et non pas une démocratie de façade.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Munevar, soy economista.
Bonjour, je m'appelle Daniel Munevar, je suis économiste.
Y trabajo para el CADTM en Colombia.
Et je travaille pour le CADTM en Colombie.
Bueno, vine aquí a Bélgica para hablar sobre la crisis por la cual están atravesando los bancos europeos.
Alors, je suis venu ici en Belgique pour parler de la crise que traversent les banques européennes.
Que es realmente el punto más débil del sistema financiero y económico global.
Et c'est le point le plus fragile de tout le système financier mondial.
La idea es intentar que la gente, los ciudadanos, puedan entender cómo esto representa una seria amenaza para su bienestar.
Et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens comment ça représente un danger très important pour leur bien-être, pour leur vie quotidienne.
Ben, je m'appelle Didier Brissa, je suis formateur à l'FGTB Wallonne, donc c'est la principale organisation syndicale du côté francophone de la Belgique. Et donc, comme aujourd'hui, la crise bancaire, financière, est surtout et avant tout une crise sociale, et que c'est aux travailleurs et aux allocataires sociaux qu'on essaye de présenter la note, ben, je suis venu pour essayer d'avoir un maximum d'infos pour pouvoir justement après rediffuser ces infos vers des délégués syndicaux en entreprise pour leur donner un autre regard sur la problématique.
Alors, d'ordinaire, dans ce genre de reportage, voyez, on se serait arrêté à l'intervenant colombien, c'est-à-dire le vaste monde. Ah, et puis il y a cet intervenant belge. Il y a des dettes en Belgique. La Belgique aurait-elle le même problème que la Colombie? Eh ben oui. Eh bien oui, ça y est, la Belgique, la Grèce, on vient d'évoquer tous ces pays du Nord qui désormais se trouvent à la même enseigne, y compris un pays très bientôt probablement en forme d'hexagone. Écoutez bien cette phrase. Les pressions des marchés pourraient réussir là où les autres approches ont échoué. Je répète, les pressions des marchés pourraient réussir là où les autres approches ont échoué. D'où vient cette phrase ? D'un document du FMI de novembre 2010 qui est très clair. Pourquoi cette phrase ? Eh bien, tout simplement pour faire avancer et appliquer et mettre en œuvre une politique qui est une idéologie bel et bien, qui est l'idéologie du néolibéralisme, du libre-échange qui s'est installé sur cette planète depuis une trentaine d'années. Or, l'endettement des gouvernements est aujourd'hui une arme pour imposer les réformes propres au capitalisme libéralisé, financiarisé et mondialisé. François Chesnais est l'auteur d'un ouvrage que je vous recommande qui s'intitule « Les dettes illégitimes quand les banques font main basse sur les politiques publiques ». Ce genre de travail, ce genre de recherche s'inscrit bien dans le travail que mène depuis longtemps, depuis 1989, le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, que j'ai présenté déjà succinctement et qui désormais depuis 2-3 ans se trouve non plus concentré sur la dette du tiers-monde mais sur la dette de tout le monde, sur la dette du monde entier, en tous les cas la dette publique. Donc hier et avant-hier à Liège étaient réunis un certain nombre de représentants du CADTM à travers le monde, venus d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, du Togo, d'Espagne, de France, de Pologne, de Hongrie, etc. Ils sont tous venus là pour 2 jours d'études très très poussées parfois avec des économistes du monde entier, des économistes mais au sens de l'économie politique, pas seulement les économistes. Ou alors des économistes comme ceux que nous aimons ici, les atterrés et les hétérodoxes, qui étaient là, mais venus du monde entier pour faire part de leurs expériences. Pourquoi c'est si précieux, ces interventions venues de Colombie, du Maroc, d'Argentine, d'Équateur et d'Afrique, etc. Ou de Hongrie, comme on va le voir. Eh bien, tout simplement parce que ces pays ont déjà été frappés. Ont déjà été frappés, non pas dans la tête par les idées ou des grands courants, des grandes convictions. Non, mais dans la vie courante, dans la vie quotidienne, dans l'assiette, dans le boulot qu'on n'a pas dans ces... Et ça fait réfléchir, et ça fait comprendre. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on comprenne avant que ça n'arrive, peut-être qu'on sera capable de déjouer ce piège énorme, ce racket extraordinaire qu'est la dette publique. Souvenez-vous, en 2005, comment les Français ont été capables cette année-là, de se concentrer sur un texte si aride et si difficile qui était le texte du traité de Constitution européenne. C'était pas facile. Et ils l'ont fait, ils ont bossé. Nous avons bossé, nous autres, les Français, pour finir, en mai 2005, par dire non à ce projet de traité de Constitution. On sait comment ce référendum a été bafoué et violé par la suite, mais on a été capable à ce moment-là de nous concentrer sur quelque chose d'assez austère et d'assez aride. C'est l'effort qui nous semble, à la base j'y suis, nécessaire. Et ces journées d'études à Liège nous y invitent et nous vous y convions jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, la dette ou la vie. Alors, Éric Toussaint, voilà des années qu'avec ton CADTM, tu te bats, tu n'étais pas tout seul, pour abolir la dette du tiers-monde. C'est ça que ça veut dire, CADTM.
Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde.
Voilà, depuis des années, tu arpentes la planète du côté du tiers-monde pour expliquer comment et pourquoi ces pays, ces régions sont dominées et vivent dans ce chaos et dans cette misère. Tu as mis en lumière, vous avez mis en lumière le système de la dette. Vous avez mis en lumière le fait que la plupart de ces pays enfoncés payent des dettes qui souvent sont illégitimes ou odieuses et payent surtout les intérêts de ces dettes illégitimes et odieuses. Et vous avez raconté, vous continuez de raconter sans cesse, inlassablement, pays par pays et d'une façon générale, comment tout ça fonctionne. Et on se dit, c'est bien qu'ils le fassent. Mais voilà-t-il pas que depuis 2 ans, cette dette du tiers-monde est arrivée ici. C'est-à-dire qu'avec la crise de 2007-2008, on est passé d'une crise bancaire à une crise des dettes publiques. Et ça commence à taper très fort ici, en Grèce, ces mois derniers, et puis en Italie, et puis auparavant en Irlande. Tout ça est en train d'avancer et commence à préoccuper quand même sérieusement ceux qui s'en croient protégés, comme pour le nuage de Tchernobyl. On pense, nous les autres, les Français, que ça ne va pas nous arriver. Alors du coup, tout ce travail que vous faites depuis des années, il devient extrêmement précieux parce que ça se rapproche de nous. Jusque-là, il y avait ce qu'on appelle le kilomètre affectif qui faisait que vous faisiez vos bonnes œuvres au loin. Voilà-t-il pas qu'on commence à se tourner vers vous en disant « expliquez-nous comment ça marche ».
Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est un retour aux sources quelque part, parce que dans les années 80, j'étais enseignant à la ville de Liège et un plan d'austérité massue nous est tombé dessus lorsque les taux d'intérêt ont explosé au début des années 80 et ont fait que les montants remboursés par la ville de Liège étaient absolument énormes, ce qui a amené le pouvoir de la municipalité à mettre en place une politique d'ajustement avec privatisation massive de services. On est passé d'un personnel municipal de 17 000 travailleurs, incluant les enseignants, le personnel de santé, etc., à un personnel communal maintenant de l'ordre de 7 000. C'est-à-dire que la ville s'est défait de toute une partie importante de son personnel et des services, et les a privatisés, remis à d'autres structures, etc. Et on a diminué les salaires très fortement. Donc, en fait, j'ai vécu et j'ai lutter, notamment au niveau du mouvement syndical. On a une lutte extrêmement dure avec une grève de 5 semaines, une bataille avec une banque qui est bien connue, qui s'appelle Dexia, et qui est tombée en faillite pour la 2e fois en octobre de cette année. À cette époque-là, ça s'appelait le Crédit Communal. Ça a été ensuite transformé en Dexia, banque franco-belge, pour dénoncer l'action de cette banque. Mais peu importe, simplement pour dire, les années 80, en fait, j'ai démarré sur la question de la dette du Nord. Et puis, j'ai pris conscience que ça touchait très fortement aussi les pays du Sud. Et alors, tu te souviendras peut-être qu'en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand a invité le G7 à Paris, à la Bastille, et des personnes comme Renaud Séchamp, comme Gilles Perrault ont convoqué une campagne avec une série d'organisations politiques qui s'appelait « Ça suffit comme si ». Et a été adopté l'appel de la Bastille qui disait « Annulation de la dette des pays du tiers-monde ». Et c'est là qu'on a créé le CADTM, et c'était il y a un peu plus de 20 ans. Alors maintenant, effectivement, quelque part, c'est un retour aux sources pour moi, mais pour la majorité des gens, c'est une découverte totale. C'est que
la majorité des gens d'ici,
de la population européenne, découvre tout d'un coup que sous prétexte de faire rembourser une dette publique qui a explosé ces dernières années, à cause de la crise et du sauvetage des banques, notamment, et pour d'autres raisons que je vais dire tout de suite, les gens se rendent compte que la dette publique est le prétexte ou l'argument pour dire « il faut l'austérité, l'austérité et encore l'austérité.
Ils sont au moins 200 000 à être venus.
France 2.
Tête, apartheid, colonie, ça se fait pas comme fille.
8 avril 1990.
Ils ont écouté attentivement et manifesté leur désapprobation. Pas question pour eux de cautionner une politique d'exclusion à une semaine de la célébration du bicentenaire. Pas question d'oublier la nécessité d'être solidaire des laissés pour compte.
Voici 200 ans. Deviendra réalité.
Le spectacle en faveur de la lutte contre l'apartheid, la dette des pays du tiers-monde, les colonies. Au programme, les négresses vertes ou Mano Negra qui versent dans le rock alternatif. Présent aussi, Johnny Clegg, il a même annulé un concert en Italie pour être là ce soir. Il est venu pour son ami Renaud.
Le prénom de sa mère, des loups, des serpents, des panthères, et le triste au milieu du dos, et le triste au milieu du dos.
Éric Toussaint, reprenons les choses à plat. Comment se constitue une dette publique? Qu'est-ce que c'est que la dette publique?
Alors, prenons l'exemple aujourd'hui que vivent les Français, les Belges, tous les habitants de l'Union européenne. En fait, partout, depuis 20 à 25 ans, on a appliqué le même type de politique fiscale qui a consisté à réduire radicalement les impôts payés par les entreprises, les grandes entreprises privées, par les ménages les plus riches. On a multiplié les niches fiscales, les réformes fiscales qui font que les recettes tirées de l'impôt des personnes physiques pour les couches les plus riches, on va parler du pourcent le plus riche ou des 10% le plus riche, hein, c'est vraiment une infime minorité de la population, elle a bénéficié d'allègements absolument massifs. De même que les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40 ont payé en moyenne un impôt réel de l'ordre de 8%. Une petite et moyenne entreprise en France paye du 22% d'impôt. Et le taux légal est supérieur à celui-là. On parle du taux effectivement payé. Donc, grandes entreprises et ménages très riches, j'appellerais ça par son nom, c'est la classe capitaliste, a bénéficié d'allègements fiscaux énormes. Ça a diminué les recettes de l'État. L'État, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a augmenté les impôts indirects sur la consommation et les services, la fameuse TVA, que paye principalement la majorité sociale qui a des revenus assez faibles. Tu me diras, mais il paye le même pourcentage de TVA, sauf qu'un riche qui consacre 5% de ses revenus mensuels à bouffer, à se chauffer, à s'éclairer, etc., ben il va payer une TVA de 15 à 20% sur ça. On va lui diminuer, parce qu'il va souvent au restaurant, la TVA sur son restaurant, mais ça représente peu de choses, vu qu'il dépense 5% de son revenu mensuel. Donc du 20% sur 5%, ça nous donne 1% d'impôt sur son revenu via la TVA. Mais un ménage modeste qui consacre la moitié de son revenu à de la consommation courante et à chauffer, se vêtir, etc., elle va payer aussi du 20%, mais sur 50% ou 60% de son revenu. Donc elle va payer un impôt beaucoup. Alors, mais ça n'a pas suffi d'augmenter la TVA. C'était injuste. Ça n'a pas suffi. Et on a dès lors recouru, les États ont recouru de plus en plus à la dette publique. Alors là, il y a quelque chose d'absolument vicieux. Les revenus des plus riches augmentent. Leurs revenus, les bénéfices des entreprises augmentent, ils augmentent leur patrimoine et leurs revenus. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils achètent des titres de la dette publique.
Voilà, parce qu'on aurait pu croire, et c'était l'argument qui était donné à tous ceux qui, comme toi, s'insurgeaient contre ce creusement des inégalités. On dit, mais attendez, on prélève moins d'impôts et ils vont investir. Ils vont investir et on va se développer et on va faire de la croissance et de l'emploi, etc. Donc, vive les réductions d'impôts. Or, effectivement, ce n'est pas du tout aller à l'investissement productif, c'est aller
dans
à des places.
Dans la finance privée, dans toute une série de produits dérivés des opérations spéculatives. Et puis, ce qui apparaissait comme un investissement sûr et rentable pour les très riches, c'est les titres de la dette publique. Il faut savoir qu'en France, le pourcentage des ménages qui détient des titres de la dette publique, c'est 3% des ménages. Voilà. Et ça représente un infime pourcentage de la dette publique, de l'ordre de 1-2% de cette dette publique. D'accord ? L'essentiel de la dette publique, elle est détenue soit par des grandes institutions financières françaises, des sociétés d'assurance, des banques, et d'autres fonds de placement collectif, et puis des sociétés financières étrangères. Donc, première cause de l'explosion de la dette publique, c'est les cadeaux, une réforme fiscale, je dirais, qui a favorisé délibérément une classe sociale. Donc, politiquement, il faut en tirer une conclusion. Cette politique de 25 années est illégitime. Elle ne respecte pas le principe d'égalité et de fraternité, ni d'équité. C'est du favoritisme pur et simple et une inégalité parfaite dans le comportement. On fait des cadeaux aux uns et par ailleurs, on maintient des dépenses publiques dans un carcan important. Maintenant, on passe à une compression des dépenses publiques, mais je parle des 20-25 dernières années. Donc ça, c'est aussi une chose très importante. La dette publique n'a pas du tout augmenté pour causée par une augmentation des dépenses publiques. C'est totalement faux. La dette publique a augmenté parce que les recettes d'impôts ont diminué et qu'il fallait pallier à la diminution des recettes d'impôts venant des entreprises les plus grosses et des ménages les plus riches. C'est cette partie-là qu'on a diminuée. Il fallait pallier à cela par de la dette publique.
Donc, ce n'est pas la crise de la dette, c'est d'abord la crise de la recette.
Oui, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, c'est 2008. La crise qui avait éclaté en 2007 aux États-Unis a un effet de contagion très important sur l'Europe. Là, on ne va pas parler simplement de la France, on va parler de différents pays européens. Et en septembre-octobre 2008, toute une série de banques en Europe tombent en faillite et sont sauvées par les gouvernements. Moins en France qu'en Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse. Mais en France, quand même, l'État français apporte de l'argent aux grandes banques françaises. C'est-à-dire que ces banques à qui l'État français avait prêté à du 8%, et le président de la République s'est vanté ensuite avec son ministre des Finances que c'était une parfaite opération parce que ça avait eu un rendement, ce qui ne vous dit pas, c'est que ces banques, pour rembourser l'État français, empruntaient à la Réserve fédérale des États-Unis à 0,25% et à la Banque centrale européenne à du 1%. Et donc, pour rembourser des prêts, anticipativement des prêts octroyés à du 8%, c'est une très bonne opération d'accéder à d'autres institutions publiques qui sont la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. Qui, Banque centrale européenne, qui ne prête pas aux États, elle ne prête qu'aux banques.
Oui, oui.
Donc, là aussi, on a l'affaire suivante. On a sauvé des banques pour ce que les États ont injecté en capitaux dans les banques. Je parle bien d'une injection dans le capital des banques. Pas un prêt, mais une donation, si tu veux. Ça totalise en Europe, dans les trois dernières années, 450 milliards d'euros.
Et ça, c'est directement notre argent. Ça, c'est l'argent public.
Voilà. Mais les États qui ont fait ça, ils n'avaient pas ça en caisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont émis des emprunts publics pour financer cela. Je te demande, qui a acheté ces emprunts publics ? Ces banques qui venaient d'être sauvées, qui recevaient de l'argent frais, ont acheté ces titres, qui étaient des titres absolument sûrs, le titre des États, avec cet argent public. Je ne sais pas si tu vois l'arnaque qui est
Ce qui avait été frappant à l'époque, c'est qu'au moment où les États-Unis ou nous en France, enfin en Europe, un peu partout, les pays frappés par cette crise, c'est qu'on a renfloué, nos gouvernements ont renfloué, comme on dit, les banques, sans contrepartie. On aurait pu penser, à ce moment-là, ça donnait une occasion aux différents gouvernements de reprendre la main sur les banques, voire de nationaliser en partie, ou de reprendre le contrôle. Pas du tout, on a continué as usual.
Or, ces banques venaient de démontrer, et démontrent depuis, qu'elles gèrent leurs fonds d'une manière parfaitement aventuriste pour le profit maximum immédiat, en empruntant à court terme, pour faire simple, et en prenant des positions à long terme. Ça veut dire, j'emprunte à du 3 mois comme banquier, mais avec l'argent que j'ai emprunté à 3 mois, je vais le prêter ou l'investir dans des produits financiers à 5 ans ou à 10 ans. Je ne sais pas si tu vois le problème. C'est que tous les 3 mois, tu dois rembourser si tu as emprunté à 3 mois. Mais l'argent que tu as emprunté, tu l'as placé à 5 ans, à 10 ans, tu ne l'as pas. Donc tu dois constamment refinancer ta trésorerie pour rembourser de 3 mois en 3 mois. Et comment les banques ont-elles fait ? En profitant d'une manne absolument fabuleuse d'argent fourni par la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. La Réserve fédérale des États-Unis a prêté 13 000 milliards de dollars en 3 ans. Et les banques françaises, notamment, et d'autres banques européennes, sont allées se financer aux États-Unis à du 0,25% comme taux. Tu vois l'opération extraordinaire, parce que dans le même temps, les États européens qui avaient sauvé les banques et qui étaient confrontés à la crise et qui voyaient en conséquence de la crise provoquée par les banques, cette crise a bien été provoquée par une crise bancaire massive aux États-Unis, le subprime et en Europe, les recettes fiscales ont diminué fortement, là comme conséquence de la crise. Donc il fallait de plus en plus emprunter. Et donc en 2008, 2009, 2010, on a une nouvelle explosion de la dette publique. Okay ? Et les banques utilisent alors des emprunts de l'argent fourni à 0,25% ou à 1% pour le prêter aux États qui, alors là, si on passe de la France, elle va rembourser à du 2%, 2,5%, 3%, ça dépend la maturité de son emprunt. Mais la Grèce, pour emprunter à 3 mois, maintenant, elle paye du 5 ou du 6% à 3 mois ou à 6 mois. Mais si un banquier emprunte à 0,25 et prête à 3 mois ou à 6 mois à du 5%, tu vois le pognon que ça fait quand même. Moi, j'appelle ça de l'enrichissement tout à fait abusif, un taux usuraire. Donc là, on est en train de vivre une situation dans laquelle les banques, en 2008-2009 jusqu'au début 2010, recevant de l'argent de la Réserve fédérale des États-Unis et de la BCE à très bas coût, se sont défaits de toute une série de titres comme des subprimes à toute vitesse. Ils ont essayé de s'en défaire. Ils n'ont pas réussi à s'en défaire complètement. Il y a énormément d'actifs toxiques dans les comptes des banques, mais ils ont essayé quand même de s'en débarrasser. Et ils ont remplacé ça, jusqu'au début 2010, par des titres publics grecs, portugais, irlandais et d'autres États qui étaient considérés comme le plus sûr du plus sûr, parce que ces banques doutaient des autres banques, doutaient des entreprises privées, et donc l'État, ça c'était du sérieux. Mais comme on a énormément prêté à la Grèce, je donne l'exemple suivant. En Grèce, en octobre 2009, la Grèce émet un emprunt à 3 mois et elle propose 0,35%. C'est très bas, 0,35%. 0,54% à 6 mois et 0,94% à 1 an. Et pour le prêt, l'emprunt à 6 mois qu'elle veut faire, elle demande 1 500 millions. Elle vend des titres pour 1 500 millions. Et les banques lui proposent à 0,54% à 6 mois pour 7 500 millions. C'est-à-dire que les banques, notamment les banques françaises et allemandes, ont jeté littéralement à la tête du gouvernement grec de l'argent qu'elles pouvaient prêter à 0,54% à 6 mois parce qu'elles l'empruntaient à la Réserve fédérale des États-Unis à 0,25%. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On a tellement jeté de l'argent à la tête de la Grèce qu'à un moment donné, sa dette publique augmente aussi. Et en mars-avril 2010, Goldman Sachs et les autres disent « Ah, le pourcentage d'endettement de la Grèce a atteint une situation intolérable, insoutenable. Les agences de notation disent « On dégrade la Grèce ». Et là, les attaques spéculatives contre la Grèce commencent et les taux d'intérêt que doit payer la Grèce, qui était ridiculement bas un an avant, explosent littéralement, ce qui empêche dorénavant la Grèce d'emprunter au-delà d'un an sur les marchés financiers. Si on est en décembre 2011, le taux que paierait la Grèce pour emprunter à 10 ans, c'est du 36%. Donc évidemment, la Grèce ne peut pas payer du 36% et elle n'emprunte pas à 10 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est que la Grèce n'avait plus accès aux marchés financiers et là se présente la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et ils disent à la Grèce, vous n'avez plus accès au marché, ben nous, on va être généreux avec vous, on va vous sauver, on va vous prêter pour 120 milliards d'euros à 7 ans, à du 5,5%. Ils sont sympas, hein, à du 5,5% pendant 7 ans. Et évidemment, on vous prête ça, mais vous allez utiliser ce qu'on vous prête intégralement pour rembourser vos créanciers. Qui étaient qui ? Les banques françaises et les banques allemandes, principalement. Qui est-ce qui avait poussé la Commission européenne dans ses sommets à ce type de sauvetage ? Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Pas pour venir en aide à la Grèce, pour être sûr que les banques françaises et allemandes qui avaient prêté massivement à la Grèce sans regarder la solvabilité de la Grèce, pour être sûr qu'elles ne tombent pas en faillite. C'était... Mais en plus, on a prêté à du 5,5%. Quand la France emprunte à du 2,5%, c'est-à-dire elle aussi, elle s'enrichit abusivement sur le dos de la Grèce. On parle de sauvetage de la Grèce alors que la France prête à du 5,5%, hein, en empruntant de 2,5%. L'Allemagne emprunte à du 1,86%, elle prête à du 5,5%. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas simplement qu'on prête à du 5,5% et qu'on dit qu'il faut utiliser entièrement l'argent pour rembourser les banques. C'est qu'on dit, on vous prête ça si vous appliquez un plan d'austérité, un plan d'ajustement structurel. Et qui là, effectivement, notre expérience comme CADTM de ce qui s'est passé dans le tiers-monde pendant 30 ans est très importante. Si tu regardes les différentes recettes du plan d'austérité imposé à la Grèce, c'est un décalque parfait des plans d'ajustement structurel imposés aux pays du tiers-monde depuis 30 ans, dont ils se sont débarrassés maintenant depuis 7 ou 8 ans. La plupart d'entre eux n'ont plus ces plans d'ajustement structurel. Mais c'est l'Europe qui a versé maintenant dans cette politique d'ajustement structurel, conduite par quelqu'un, par une institution que les peuples du Sud connaissent parfaitement et qui s'appelle le Fonds monétaire international, qui avait disparu du terrain européen. La dernière fois que le Fonds monétaire international était intervenu en Europe, c'était en 1986 à l'égard du Portugal, et ça laissait un très très mauvais souvenir aux Portugais. Et après ça, le FMI n'est plus intervenu que dans les pays du Sud ou dans les pays de l'ex-bloc soviétique, une fois que le bloc soviétique a implosé. Okay, et donc le FMI, dont plus personne ne voulait... Les gouvernements du Sud ne voulaient plus du FMI, ils le remboursaient anticipativement en disant « on ne veut plus vous voir ». Ils ne savaient plus où trouver des clients et voilà que se présente de
ça
manière…
Ça tombe très bien,
la crise. En fait, le FMI va très bien quand il y a une très grosse crise parce qu'il vient alors avec de l'argent face à des pays qui n'ont plus accès aux marchés financiers, aux banques, qui leur prêtaient jusque-là massivement. Et il dit, voilà, je viens vous rendre service, mais vous allez appliquer ma politique. Cette politique était parfaitement néfaste dans les pays du Sud et ils vont mieux depuis qu'ils l'ont abandonnée. Et maintenant, on l'applique en Europe et ça va avoir les mêmes effets. Alors, en résumé, je pense qu'il faut adopter des critères politiques concernant la dette publique. L'essentiel de la dette publique est illégitime, parce qu'elle a été accumulée dans le cadre d'une politique qui a favorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seule classe sociale, qui est une infime minorité de la population, au détriment du reste de la population, premièrement. Deuxièmement, elle est illégitime parce qu'elle a été augmentée par le sauvetage des banques. Et comme tu l'as dit, les États qui ont sauvé les banques n'ont posé aucune condition et n'ont pas repris le contrôle des institutions bancaires. Dexia, l'État français l'a sauvé avec l'État belge en octobre 2008. On a laissé Dexia, avec un Français à la tête, Pierre Mariani, dilapider les fonds qu'on avait injectés en son sein en 2008. Et Dexia est retombé en faillite début 2011. Et on l'a sauvé une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus illégitime que cette politique qui consiste à aider des banquiers sans leur fixer des conditions et à chaque coup devoir utiliser des fonds publics pour les sauver? Ça, c'est le deuxième. Troisième raison de l'illégitimité, les recettes fiscales ont baissé à cause d'une crise provoquée par les banques et la déréglementation financière. Et donc, on a aussi dû augmenter l'endettement public. Et quatrièmement, un autre facteur d'illégitimité, c'est que dans le cadre européen, en particulier de la zone euro, les États ne peuvent pas emprunter à la Banque nationale de France, alors à la Banque nationale de Belgique, à la Banque de Grèce ou à la Banque centrale européenne. Dans le cadre de la construction européenne, et en particulier de l'eurozone, les constructeurs néolibéraux de cette...
On a bouclé l'affaire, bien verrouillé.
C'est les banquiers qui ont le monopole du crédit aux États. Et donc les États doivent emprunter aux banquiers. Mais je te pose la question, les banquiers, eux, ils se financent où ? Ils se financent auprès de l'institution publique qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. C'est là qu'ils se financent. Ou bien avec les dépôts, les gens qui reçoivent en début de mois leur salaire sur leur compte en banque, ils prêtent à leur banque. Et la banque ne les rémunère pas. Sur leur compte courant pour le prêt que fait pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois le travailleur ou le chômeur ou la locataire sociale français. Donc ces banques se financent d'une part du côté des institutions publiques, bancaires, et d'autre part du côté du public, et ont le monopole du prêt, du crédit aux finances publiques. Et là, ils font monter... Ils font du chantage et là, les agences de notation leur viennent en aide pour dire « Ah, on va vous enlever une des trois lettres du triple A ou on va mettre un petit moins à côté du triple A et ça va faire augmenter les taux d'intérêt que l'État devra payer. » Donc là, je parle réellement d'une arnaque impressionnante qui a comme conséquence que cette dette publique, elle est illégitime et qu'il faut donc, par un audit citoyen, il faut que les citoyens et citoyennes françaises et dans les autres pays d'Europe constituent des collectifs locaux pour rompre le tabou de la dette et se poser les bonnes questions, mettre à nu le système de la dette.